Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Bonjour à tous, nous vous retrouvons pour Balance ton égalité, une émission qui a pour but de mettre en avant les inégalités, et plus particulièrement les inégalités hommes-femmes, dans notre société actuelle.
Balance ton quoi ?
Balance ton égalité.
Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait,
en c'est,
que
non. C'est non.
Au programme, les droits des femmes aux USA, l'affaire Pellico, mais aussi les procès MeToo, et bien d'autres encore. Nous serons ensemble pour la prochaine heure avec des élèves pour qui ces sujets leur tiennent à cœur. Commençons tout de suite avec Elisa, avec qui j'ai écrit une chronique sur le plafond de verre. Mais avant tout, passons sur le viol dans les contes. Alors, depuis les années 60, les contes sont redécouverts, mis en avant à chaque enfant et racontés des classiques tels que Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant et j'en passe. Lorsqu'ils sont représentés, soit au cinéma, soit au théâtre, ils sont souvent le sujet de l'étalage de la richesse, de festivité et d'amour. D'ailleurs, parlons-en d'amour. Dans la quasi-totalité des contes, on y raconte l'histoire d'une jeune fille vivant une ascension sociale fulgurante en découvrant l'amour, aujourd'hui devenu un stéréotype dont elles sont encore de nombreuses petites filles. Mais est-ce que les contes se résument à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Selon là un article de l'Académie des hypothèses, les contes seraient les agents d'une socialisation dont le but viserait à faire intérioriser par les garçons et les filles des valeurs hétéronormatives destinées à favoriser la perpétration de la domination masculine sur la société. Autrement dit, dès leur plus jeune âge, on conforme les enfants dans une idée de monde patriarcal où les filles sont douces, dociles et soumises, alors que les garçons sont des aventuriers, courageux, mais surtout des futurs souverains. Les contes de 1690 étaient en réalité un outil pour convaincre les jeunes filles de se marier en leur donnant des rêves d'un futur semblable à celui des contes. En 2018, l'universitaire indienne Janaki Srinivasan estimait que les contes sont un outil d'endoctrinement pour les enfants, mais aussi un outil utilisé pour mettre en avant les rôles sexués. Mais les contes que nous connaissons tous ne nous enseignent pas le monde patriarcal. Ils amènent également une vision du consentement en accord avec le XVIIe siècle. Je vous laisse deviner la suite. Comme nous le rappelle notamment Hermeline Pernaud, malgré les réécritures les contes continuent de mettre la femme dans une position inférieure à l'homme au lieu de favoriser sa liberté. De plus, elle met en avant la culture de viol, notamment dans La Belle au bois dormant. Vous savez, la célèbre scène où le prince réveille la princesse par un baiser? Cette scène est une adaptation. La vraie scène, écrite par Perrault, narrait un réveil de la princesse suite à une relation sexuelle entre la princesse encore endormie et le prince. Si une femme est endormie, peut-elle consentir à un rapport sexuel? La version de Perrault elle-même est inspirée d'une version italienne où Aurore, suite à un rapport sexuel, tombe enceinte, donne naissance à des enfants, dont l'un d'eux suce son doigt, faisant ressentir les chardes qui la maintenait endormie, ce qui lui a permis de se réveiller. Par ailleurs, Disney est aussi accusé de maintenir la culture du viol, notamment dans les scènes de baiser. Mais même s'il change légèrement l'histoire de La Belle au bois dormant, il change celle de Blanche-Neige, mais pas de la manière dont on l'espère. Dans la vraie version, lorsque Blanche-Neige est dans un cercueil de verre, un groupe de valets vient la déplacer, et lors du déplacement, l'un d'eux trébuche, faisant tomber le cercueil. Le choc fait ressortir la boue de pomme coincée dans la gorge de Blanche-Neige. Dans la version de Disney, c'est un baiser qui réveille la princesse. Alors, consentement ou pas? Comme vous pouvez le voir, les contes que nous sont racontés dès l'enfance nous transmettent inconsciemment des idéologies patriarcales et des valeurs qui sont aujourd'hui condamnées dans nos sociétés actuelles. Et encore aujourd'hui, les adaptations des films par des géants du cinéma tels que Disney continuent de transmettre des normes et des valeurs qui ne sont pas en corrélation avec ce que l'on croit aujourd'hui. Mais depuis 2017, avec l'émergence des mouvements tels que MeToo, on commence à se rendre compte que les valeurs qui sont transmises aux futures générations dans les contes ne sont pas en adéquation avec nos valeurs actuelles. Mais malgré cette prise de conscience, il reste encore du chemin à faire. Nous poursuivons désormais avec une autre chronique que j'ai écrite avec Elisa sur le plafond de verre dans le monde du travail. Elisa, je te laisse commencer.
Pour commencer, le plafond de verre est une expression américaine datant de la fin des années 70. Le plafond de verre est une expression qui définit certaines barrières invisibles qui empêchent l'évolution des femmes dans le monde du travail, d'où l'idée de plafond de verre. Le terme est popularisé en 1986 par deux journalistes du Wall Street Journal et actuellement, il désigne plusieurs autres catégories de personnes, telles que celles issues de classes sociales inférieures, mais également les populations victimes de discrimination raciale ou bien évidemment sexistes.
En effet, on constate que les femmes sont souvent moins promues que les hommes, et ce, peu importe leur catégorie sociale, des uns et des autres. Autrement dit, ces disparités sont présentes autant dans les milieux précaires que bourgeois. De ce fait, selon une étude de contre-emploi, seuls 12% des femmes actives sont à la tête d'une PME, petite ou moyenne entreprise, ou d'une ETI, entreprise de taille intermédiaire.
Une des premières caractéristiques du plafond de verre est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui est actuellement de 15% en France et en faveur des hommes. Et malgré que chaque individu est au courant de cette différence de salaire, les choses n'évoluent pas. On parle alors de plafond de verre, car cette différence fait partie de la conscience commune, mais elle n'évolue pas. Cette non-évolution est surtout liée au fait que les individus au travail sont catégorisés selon leur sexe, de leur âge ou bien évidemment de leur origine sociale.
Ainsi, en 2020, seuls 25% des entreprises ayant une quasi-parité sur les 10 plus gros salaires. De plus, bien que les inégalités soient connues de tous, les choses mettent du temps à évoluer. En effet, malgré les nombreuses lois qui ont évolué pour faire avancer les choses, une loi de 2001 promettait notamment une disparition des écarts de salaire d'ici la fin 2010. Nous sommes en 2024 et les écarts salariaux sont encore présents, voire beaucoup trop présents.
Une autre caractéristique est la mixité des métiers. On compte actuellement que pour 187 métiers, seulement 13 sont réellement mixtes. Mais cette répartition est inégalitaire, car souvent, des métiers dits bien payés, comme par exemple dans les milieux de l'aérospatial, est très masculin. Ce qui, par extension, explique pourquoi il est plus difficile pour une femme de monter les échelons. Aussi, les métiers souvent dits mal vus, tels que aide ménagère ou encore assistante maternelle, contribuent à accentuer l'impossibilité pour les femmes d'accéder à un poste haut placé.
Actuellement, on remarque notamment dans le privé qu'il y a une certaine parité au niveau des recrutements. Or, si l'on s'intéresse réellement aux chiffres, on remarque que les femmes embauchées sont souvent en bas de l'échelle et plus on monte dans la hiérarchie, moins l'on voit de femmes. De plus, les femmes ont souvent des difficultés à monter les échelons, notamment dû au fait que ce sont les femmes qui doivent le plus monter donner de leur temps dans la vie familiale. En effet, les femmes passent en moyenne 24 heures par semaine à s'occuper du foyer, soit l'équivalent d'un emploi à temps partiel. Aujourd'hui, on compte que sur 100 femmes, seules 28 gagnent plus que leur mari.
On peut donc en conclure que le plafond de verre est donc un fléau social qui empêche l'émancipation des femmes et qui doit vite être enrayé par les futures générations grâce notamment à l'évolution des mentalités et des lois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Elisa. Nous allons passer désormais à la prochaine chronique que tu vas nous faire, notamment sur le portrait de Gisèle Pellicot, une femme violée et droguée par son mari pendant plus de 10 ans.
Aujourd'hui, j'ai choisi comme figure du féminisme une femme assez contemporaine, mais dont nous ignorions totalement l'existence jusqu'à il y a 4 ans, au moment où sa vie déraille. À présent, j'ose croire que son identité ne vous est pas inconnue. Je vous parle bien de l'ex-Gisèle Pellicot, car en effet, elle a divorcé et a donc perdu le nom de son ex-mari. Cette femme, de maintenant 72 ans, avait une vie des plus banales, en apparence du moins, et surtout avant le 12 septembre 2020. Mais ne nous attardons pas sur les faits, puisqu'Amandine vous les relatera juste après. Tout ce dont vous avez à savoir, c'est qu'elle a été violée par des dizaines d'inconnus, durant 9 ans, dans sa chambre conjugale, alors qu'elle était droguée par son mari. Mais passons, c'est elle qui nous intéresse. Et plus exactement, son courage, sa détermination, sa patience, sa droiture, sa bravoure et toutes les qualités indénombrables qu'elle possède. En découvrant la vérité, elle s'est posé des questions, mais a agi intelligemment, du moins si je peux parler ainsi. Elle a donc divorcé, a déménagé, s'est reconstruite petit à petit pour finalement trouver le courage de témoigner, tête haute, au procès des 51 accusés qui s'est ouvert le 2 septembre 2024 à Avignon. Au cours de ces longs mois d'incertitude, elle est restée ferme, devenant doucement un symbole emblématique de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde entier. Même lorsqu'il s'agissait de visionner les vidéos des abus, comme ces dernières étaient intitulées, par le principal accusé, elle n'a pas flanché une seule fois. Elle n'a quitté la salle d'audience que 2 fois, au cours des longues heures passées au tribunal, et uniquement à la suite de propos tout bonnement inadmissibles. Bref, comme vous pouvez le voir, cette femme est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, sachez que le verdict de cette affaire hors norme est tombé hier. Et donc, je vous encourage fortement à aller le voir, puisque je ne peux évidemment pas lister les 51 condamnations. Bon, et pour conclure, sur une note plus cérémoniale peut-être, depuis le 3 décembre 2024, Françoise P., comme l'a surnommée la presse, fait partie des 100 femmes les plus inspirantes dans la catégorie politique. Car, selon la BBC, autrice de ce classement, en renonçant à son droit à l'anonymat et en permettant que son histoire soit diffusée dans le monde entier, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de courage et de résilience. J'ignore si l'on peut la féliciter pour cela, ou même si c'est suffisant au vu de tout ce qu'elle a enduré au cours des dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle mérite vraiment tout le bonheur du monde.
Merci beaucoup Elisa pour cette magnifique chronique. Nous allons désormais faire une petite pause en écoutant la chanson « Mauvais garçon » d'Elena avant de rentrer dans les détails de l'affaire Pelicot avec Amandine.
Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sers à rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux eux sont libres. Son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, c'est moi le. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit, faut que j'arrête.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Continuons désormais avec cette même affaire qui a envahi la presse et qui a choqué l'ensemble de la population. On parle ici du procès Pelicot avec Amandine et notamment de la notion du consentement.
Un jour, en 1977, Gisèle Halimi, une jeune avocate, dit « Quand une femme est violée, on commence par dire qu'elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, qu'elle n'avait qu'à pas sourire, qu'elle n'avait qu'à pas sortir, qu'elle n'avait qu'à pas, qu'elle n'avait qu'à pas. En fait, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. » Ces paroles n'ont jamais autant résonné depuis le début de l'affaire Mazan. Près de 45 ans après, la question de la tenue, du mariage, de l'existence même d'une femme pose encore problème à la justice et pour la population. Je pourrais même dire que la parole d'une femme n'est pas valable. Un non, un je ne sais pas, aucune réponse devient tout de même un oui. Mais comment ? Comment peut-on détourner le sens d'un désaccord, d'un refus ou d'une absence de réponse ? Les faits se sont déroulés le 23 juillet 2011 au 23 juillet 2020. L'affaire Pellicot se retrouve face au monde à partir du 23 octobre 2020, parce que Dominique Pellicot tente de filmer sous la jupe de plusieurs femmes dans un supermarché. C'est ici que tout commence, c'est ici que la vie de Madame Pellicot bascule dans un cauchemar, avec pour seule issue, faire face à ce qui lui arrive. Au travers d'images et de vidéos, elle découvre que son mari n'est pas l'auteur d'un seul fait grave, mais de presque 10 ans de viol orchestré sur elle, sa propre femme. Pour Gisèle Pellicot, c'est la douche froide. Depuis des années, Dominique Pellicot l'a droguée, dans le seul but de l'offrir à des hommes de tout âge le soir. Près de 92 viols ont été recensés pendant presque 10 ans sur cette femme, sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte. Pendant que Gisèle Pellicot subissait ses viols à répétition, M. Pellicot l'a photographiée, l'a filmée à son insu et gardait les vidéos et images dans un dossier nommé « Abus ». Puis il les postait sur un autre site. Maintenant, les questions que je me pose face à ces agissements. Comment peut-on encore affirmer qu'elle était consciente alors qu'elle ne réagissait pas sur les vidéos ? Ni cri, ni gémissement, aucun bruit, aucun mouvement. Comment peut-on affirmer qu'elle était consentante ? Il est pourtant simple, tout ce qui n'est pas un oui est un non. D'autant plus que Madame Pellicot avait déjà répondu à un non aux nombreuses questions de son mari au sujet de l'échangisme et du libertinage. Aurait-elle changé d'avis ? Elle n'a nullement explicité un oui, ce qui signifie que son avis n'a pas changé. Comment peut-on nous demander ce qu'est le consentement lors d'un procès ? Les définitions, les limites même qui forment le consentement ne devraient-elles pas déjà être établies ? Pourtant, une femme est violée toutes les 2 minutes 30 chaque année en France. Et ce ne sont que les chiffres du gouvernement. Si pour une affaire, il se pose la question, qu'en est-il pour toutes les autres ? Puisqu'avec un nombre aussi conséquent d'affaires, il est impossible de se poser la question pendant une seule affaire avec des éléments et des preuves aussi explicites. La définition doit être précise dès le départ, pendant tout le temps où il décide de discuter de la notion, du consentement même, les paroles de la victime sont remises en cause et sont détournées. Ce qui provoque la souffrance, plus encore de la victime. Dès lors, une femme prend le courage de venir parler de son expérience. Je ne vois pas pourquoi ses dires sont remis en cause, voire contredits, surtout s'il y a des preuves à l'appui. Ensuite, comment peut-on affirmer qu'il y a un viol et viol ? Faut-il comprendre qu'il y a des viols plus graves que d'autres ? Merci Guillaume de Palma pour cette merveilleuse défense. J'aimerais bien savoir quelle serait votre réaction si c'était votre mère ou encore votre fille qui était dans cette situation. C'est très bien de défendre les accusés, mais comment pouvez-vous affirmer de tels propos en étant un représentant de la loi et de la défense d'autrui ? Notamment en faisant comprendre au monde que tout dépend de la gravité des actes. Plus d'une femme est restée stupéfaite par ces propos. L'affaire Mazan n'est tout bonnement pas une affaire banale, que nous pouvons régulièrement voir. Pourtant, Guillaume de Palma nous laisse entendre qu'il n'y a donc rien de grave dans ce qu'a fait subir Dominique Pellicot à sa femme. Puisqu'après tout, elle était droguée et elle ne ressentait rien sur le moment. Je trouve cela totalement abominable. Comment en tant que personne, en tant que père de famille, en tant que voisin ou mari, pouvons-nous faire subir de telles atrocités ? Comment pouvons-nous encore normaliser ces actes, alors que 7 femmes sur 10 ont une histoire à raconter au sujet d'agressions sexuelles ou de viols d'attouchement ? Comment pouvons-nous affirmer aux femmes que ce sont leurs tenues qui posent problème ? Alors que des nourrissons, des enfants se font violer. Encore ici, vous me direz que ce sont leurs tenues ou leurs attitudes qui posent problème ? Il faut stopper ce préjugé sur la tenue des femmes, telle qu'elle soit, peu importe leur âge. Si Gisèle Pellicot aussi avait une tenue qui portait à confusion ou une attitude du même genre, vous me direz ? Si je devais dénoncer un problème, ce ne serait pas la vente d'un ou plusieurs vêtements trop courts. Ce ne serait pas un caractère trop sage ou pas assez. Une façon d'agir ou encore un maquillage plus ou moins extravagant. Non. Ce ne serait pas ça, mais plutôt le fait qu'un homme ait un pouvoir, une pression sur une femme. Aujourd'hui, lorsqu'on entend qu'une femme s'est fait violer par son homme, ça choque tout le monde, parce que c'est sa compagne, alors que les hommes, ça ne choque pas. Avoir des rapports sexuels avec sa compagne, c'est devenu un devoir conjugal. Si ceux-ci ne sont pas effectués, c'est devenu normal que l'homme la force. à avoir donc des rapports non consentis sous prétexte que ce soit comme ça. Trouvez-vous ça normal ? Cependant, ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la femme n'est pas un objet, elle n'appartient à personne sauf elle. Et pourtant, durant ces 10 ans, Dominique Pellicot a oublié que sa femme n'était pas son objet, qu'elle n'était pas une chose qu'il devait manipuler, droguer, pour assouvir ses désirs et ceux des autres. C'est un oubli que trop d'hommes font dorénavant. Or, aucune femme n'ose en parler. Effectivement, seulement 6% des femmes portent plainte à cause de la honte qui leur est arrivée. Toutefois, je les comprends, toutes ces femmes qui n'osent pas aller au commissariat porter plainte, quand on voit que 94% des plaintes pour viol ou agression sexuelle en tout genre sont classées sans suite. Mais comme l'a dit Gisèle Pellicot, la honte doit changer de camp. Et elle a 100% raison. En même temps, comment voulez-vous que les femmes aient confiance en les forces de l'ordre pour parler lorsqu'elles sont interrogées comme des accusées et non des victimes ? Imaginez-vous, juste 2 minutes, dans une petite salle, avec un ou plusieurs agents qui vous demandent « Êtes-vous sûr d'avoir dit non ? » Était-il clair pour votre agresseur que vous ne vouliez pas de rapport ? Je pense qu'à partir du moment où elle ne veut pas, où elle crie, où elle se débat, l'agresseur qui est en face est en capacité de comprendre que c'est un non. Et puis, pourquoi ce serait aux femmes d'avoir honte et peur et non aux accusés ? Je me demande comment se fait-il que ce soit les femmes qui subissent majoritairement, voire totalement ces horreurs, et non les hommes autant que les femmes. Pour que nous soyons autant à subir ces viols, c'est qu'il y a un problème. Mais d'où vient-il ? Des hommes ? Des femmes ? Je dirais plutôt que c'est en partie la faute du système patriarcal qui perdure et aussi aux mentalités de nombreux hommes et femmes qui ne laissent pas la place à l'évolution. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des solutions ?
Merci beaucoup Amandine pour cette magnifique chronique pleine d'émotions qui révèle malheureusement la triste vérité du monde. Écoutons désormais Soline qui a rédigé une chronique sur Adèle Hanel, femme féministe qui a fait connaître le mouvement MeToo et qui a avoué avoir été victime de viol lors de son adolescence.
Alors bonjour à tous. Donc Adèle Hanel, c'est une actrice et une militante féministe qui est née le 11 février 1989 à Montreuil, près de Paris. Elle se fait connaître pour son rôle dans le film Les Diables, qui est sorti en 2002 et réalisé par Christophe Rougia. L'actrice reçoit en 2014, 2015, 2018 et 2019 les Césars de la meilleure actrice pour ses rôles dans plusieurs films différents. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le lundi 16 et le mardi 17 décembre s'est tenu le procès du réalisateur Christophe Rougia, qu'Adèle Hanel accuse d'attouchement et de harcèlement sexuel. En effet, le 3 novembre 2019, l'actrice accorde une interview à Mediapart dans laquelle elle dénonce les gestes déplacés que pouvait avoir le réalisateur lorsqu'il était seul avec elle, notamment lors de plusieurs festivals. Les faits se seraient produits quand la star avait entre 12 et 15 ans, soit entre 2001 et 2004. Christophe Rougia avait quant à lui entre 36 et 39 ans. L'actrice aurait alors vécu, je cite, au minimum 120 samedis d'agression sexuelle en l'espace de 4 ans, selon son avocat. À la publication de l'interview, l'actrice est très vite considérée comme un symbole de la lutte féministe contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma et au-delà. À cette époque, la libération de la parole des femmes victimes de violences sexuelles est en pleine expansion, avec par exemple la création du mouvement MeToo en 2007, qui prend de l'ampleur dans les années 2010. Lors de l'interview, Adèle Hanel révèle qu'elle ne souhaite pas porter plainte contre le cinéaste, car pour elle, la justice ne condamne presque pas les agresseurs, et elle souligne que, je cite, « la justice nous ignore, alors on ignore la justice ». Néanmoins, le 25 octobre 2019, une enquête est ouverte et l'actrice porte alors plainte contre le réalisateur. Suite à ces accusations, Christophe Rougia se défend en les qualifiant de purs mensonges et en expliquant qu'il était, je cite, « tombé fou, amoureux de sa jeune actrice ». Il garde cette version pendant une longue période, avant d'accuser Adèle Hanel d'avoir, je cite, « un comportement digne d'une actrice porno ». Le cinéaste ne nie pas avoir passé des moments seuls avec l'adolescente, mais raconte qu'ils passaient leurs après-midi à discuter, à parler de livres, à regarder des vidéos et quelques films. Le procès a donc eu lieu le lundi 16 et mardi 17 décembre 2024. Le mardi, alors que l'accusée est à la barre et tente de justifier ses actes, Adèle Hanel lui crie, je cite, « ferme ta gueule », avant de quitter la salle d'audience pendant plusieurs minutes. À l'issue de ces 2 jours, la justice requiert 50 prisons, dont 2 fermes contre Christophe Rougia. Le procureur explique que l'homme avait toute sa conscience d'adulte pour agir autrement. En plus de cette peine de prison, le réalisateur a l'interdiction d'entrer en contact avec la plaignante et d'exercer un métier en contact avec des mineurs. La carrière des 2 figures du cinéma a par la suite pris fin, soit par choix, soit par obligation. En effet, l'actrice a annoncé en mai 2023 qu'elle stoppait sa carrière pour dénoncer, je cite, « la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels ». De plus, depuis sa révélation, Ada Nenen fait des violences sexistes et sexuelles une cause qui lui est chère. En février 2020, elle quitte par exemple la cérémonie de remise des Césars après que le cinéaste Roman Polanski ait été récompensé. Celui-ci est en effet condamné pour avoir commis plusieurs violences sexuelles. Quant à Christophe Ruggia, il a été exclu le 4 novembre 2019, le lendemain des révélations, de la Société des réalisateurs de films, une association professionnelle dont il était membre et qui apporte tout son soutien à l'actrice.
Merci beaucoup Céline. Passons désormais à la presse américaine avec l'affaire Puff Daddy qui a mis en lumière l'envers du cinéma. Écoutons désormais Alice.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Vous en avez sûrement entendu parler, mais tout le monde n'est pas forcément au courant des détails. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'affaire qui secoue l'industrie du divertissement. P. Diddy, le célèbre rappeur et producteur, est accusé de crimes extrêmement graves, notamment de trafic humain, d'abus sexuels et d'enlèvement. Le 15 septembre 2024, une opération conjointe du FBI et de la police de Los Angeles aboutit à l'arrestation de P. Diddy, également connu sous le nom de Sean Combs. Cette arrestation fait suite à plusieurs mois d'enquête impliquant des témoignages de victimes présumées, des dénonciations internes provenant de son entourage proche et la découverte de preuves matérielles accablantes. Les autorités ont mené des perquisitions dans ses résidences de New York, Miami et Los Angeles. Elles y ont découvert des vidéos compromettantes qui montreraient des abus sexuels présumés, des substances illicites destinées à droguer les victimes, ainsi qu'un carnet qui contiendrait des listes de participants et des détails sur l'organisation des soirées appelées « freak-offs ». Ces « freak-offs », véritables soirées de débauche orchestrées par P. Diddy, auraient impliqué plusieurs victimes contraintes de participer à des actes sexuels. Certaines auraient été piégées à l'aide de drogues ou menacées physiquement, tandis que d'autres auraient été maintenues sous un contrôle psychologique constant. Plusieurs accusateurs, parmi lesquels son ancien collaborateur Lil Rod et des membres du personnel de sécurité, affirment que ces soirées servaient également à filmer des contenus compromettants destinés à faire chanter d'éventuels témoins ou participants influents. Le témoignage de plusieurs femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits, a également été rendu public. Elles affirment avoir été recrutées sous prétexte de participer à des auditions ou des opportunités professionnelles avant d'être entraînées dans un système d'exploitation méthodique. Selon des rapports confidentiels divulgués à la presse, l'une des victimes présumées aurait réussi à s'échapper et à alerter les autorités, déclenchant ainsi l'enquête actuelle. Parmi les noms mentionnés dans cette affaire, des célébrités comme Cuba Gooding Jr., Beyoncé et Jennifer Lopez sont citées comme ayant assisté à ces soirées, bien que leur degré d'implication reste flou. Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans l'industrie et alimentent des spéculations sur un réseau plus vaste de complicité. Le procès de Puff Daddy, prévu pour février 2025, est particulièrement attendu. S'il est reconnu coupable, il pourrait écoper de la prison à vie. En parallèle, plusieurs recours civils ont été déposés contre lui, incluant des demandes de dédommagement de la part des victimes présumées. Les avocats de P. Diddy, de leur côté, dénoncent un lynchage médiatique et affirment que leur client est la cible d'un complot visant à détruire sa carrière. Cette affaire, qui dépasse de loin la seule personnalité de P. Diddy, met en lumière les dérives profondes de l'industrie du divertissement. Elle soulève des questions sur les mécanismes qui permettent à certaines figures influentes de profiter de leur pouvoir pour échapper à la justice pendant des décennies. Des mouvements sociaux comme MeToo ont rapidement pris position sur cette affaire, exigeant une transparence totale et des réformes structurelles pour protéger les victimes et briser la culture de l'impunité. Aujourd'hui, P. Diddy reste en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, tandis que l'enquête se poursuit. Des procureurs annoncent qu'ils envisagent de chercher des complices dans son entourage, laissant entendre que d'autres arrestations pourraient suivre dans les semaines à venir. Une chose est sûre, ce scandale marque un tournant et pourrait bien devenir un exemple de justice face aux abus de pouvoir dans les sphères les plus privilégiées de notre société.
Merci beaucoup Alice. Avant de passer à la suite, j'aimerais passer à un mini débat en réaction à ces trois affaires qui ont secoué les médias. Pour vous, quels sont vos ressentis en entendant toutes ces affaires et en découvrant de nouvelles ?
Moi j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai notamment lu assez récemment un article allemand qui concluait ainsi « Regardons, et pas seulement en France ». En effet, d'après la journaliste, de nombreux viols sont effectués sous dominance chimique partout dans le monde et notamment dans les foyers. Donc, j'avais une question à vous poser, c'est
comment faire sortir ce tabou des maisons et vraiment le montrer au monde entier?
Bah, forcément, l'important, c'est l'information, c'est de vraiment montrer à tout le monde qu'il faut en parler. Parce que forcément, si c'est dans les foyers, donc au sein d'une famille, c'est forcément hyper compliqué. Parce qu'en fait, des enfants, ils vont avoir la pression de leurs parents. Donc, imaginons, bon, bien sûr, on va supposer qu'il y a plus de chances que ce soit... tu parles bien des familles, du coup.
Donc oui, des familles, mais aussi particulièrement donc, des femmes, et même dans des couples seuls, sans enfants.
Ah oui, ok. Alors, si on parle des familles, moi, je vous donne mon avis sur les familles. Les familles, forcément, je trouve que c'est hyper compliqué parce que il va toujours avoir la pression des parents, surtout si l'enfant, il va être jeune. Ça va être en mode, le dis pas à ta mère, si on suppose, vu qu'on suppose que ce sera plus facilement, on suppose qu'il y a plus de chances que ce soit un homme qui pourrait avoir ce genre d'échange avec ses enfants. Mais il y aura toujours la pression de ce sera notre petit secret entre nous, le fait que forcément on ne va pas oser dire quelque chose, on ne va pas oser avouer ce qu'on subit parce que c'est des personnes proches, ici nos parents. Mais sinon, comme tu disais, dans les couples aussi, je pense qu'il y a aussi le problème, c'est cette image extérieure. C'est-à-dire qu'on va. Les personnes, souvent les profils de violeurs comme ça, ou de gens juste qui vont avoir. Qui vont poser une pression sur d'autres personnes, ça va être à l'extérieur, ils vont montrer qu'ils sont parfaits. En fait, ils vont montrer que tout va bien et du coup, on va avoir cette peur. Je pense que les personnes vont avoir cette peur de dire, puisqu'on va leur dire, mais c'est pas possible. Moi, je le vois tous les jours. Je le vois, il est super gentil avec moi. Il y a aucune chance que tu subisses ça. Et ça, du coup, on va donner des arguments, on va oser parler et au contraire, ça va se retourner contre nous. Donc, faut vraiment que les gens arrivent à comprendre qu'une personne, ce qu'on voit à l'extérieur d'une personne, ça veut rien dire par rapport à sa personnalité intérieure. Et une fois que ça aura changé, on pourra évoluer en fait.
Alors moi je reviens avec donc une nouvelle question. Est-ce que pour vous, ces affaires sont liées à des siècles de discrimination et de domination patriarcale justement? Vas-y Amandine.
Moi je pense, comme je l'ai dit dans la fin de mon article, je pense que ce genre de phénomènes sont liés en grande partie à cause du patriarcal ou du fait qu'on est parti d'un point A où l'homme dominait, où l'homme était fort et décidait. La femme n'a plus son mot pendant longtemps, voire encore maintenant n'a pas son mot à dire pour quoi que ce soit. Et donc ça joue toujours de nos jours de laisser le système patriarcal décider et de devoir s'abandonner, nous, les femmes, en général, dans ce système.
Et du coup, j'aimerais terminer avec une dernière question. Quelles seraient pour vous les solutions à mettre en place, autant sur l'évolution de la mentalité de la population ou de nouvelles lois à mettre en place? Qu'est-ce qui serait pour vous la meilleure des solutions, en fait? Vas-y, Amandine.
Déjà, je pense que, comme je l'ai dit dans mon article, si on considérait les femmes... je parle du concept des femmes, mais qui par exemple viennent parler de leur violence quelconque au commissariat, enfin aux forces de l'ordre, déjà de ne pas les considérer en fait comme des accusés directement, déjà leur faire comprendre qu'on les écoute, qu'on est conscient de ce qu'elles ont pu vivre, que ça peut être grave psychologiquement, physiquement, etc. Et donc de ne pas simplement leur dire, leur faire comprendre qu'elles peuvent être mi-victimes, mi-accusées, voire même plus accusées, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'elles ont pu vivre, on n'est jamais sûr, etc. Et si déjà on partait de ce concept-là, ça pourrait être déjà un gros débat, enfin un gros début, et surtout éviter de gros débats dans le concept de la femme a la tort et c'est l'homme qui décide, quoi.
Merci beaucoup les filles. Nous allons désormais passer avec la chanson Peur des filles de l'Impératrice. We'll be right back.
réfléchir, faut toujours peser ses mots. Désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mandou, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds.
Passons désormais à l'événement qui a marqué la France cet été. Et oui, je parle des JO. Aujourd'hui, Lola va nous parler de la polémique qui a vu le jour lors de la cérémonie d'ouverture de ceci. La polémique drag queen.
Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris a fait sensation, mêlant performances artistiques audacieuses, inclusivité culturelle et références historiques. Conçue par le metteur en scène Thomas Joly, cette soirée devait refléter les valeurs d'universalité et de diversité chères à l'olympisme et à la France moderne. Parmi les moments marquants figurait une performance des drag queens Pige, Paloma et Nicki Doll, stars de Drag Race France, aux côtés de Philippe Catherine, incarnant Dionysos, peint en bleu et recouvert de paillettes. Cette scène, inspirée de tableaux classiques, s'inscrivait dans une volonté de réinterpréter les mythes fondateurs sous un angle contemporain et inclusif. La polémique s'est cristallisée autour d'une scène où les artistes étaient disposés autour d'une table. De nombreux spectateurs y ont vu une parodie de la scène de Léonard de Vinci, un tableau emblématique représentant le dernier repas du Christ. Cette interprétation a suscité des réactions indignées, notamment de la part de certains groupes religieux et conservateurs. Cependant, Thomas Joly a précisé que l'inspiration provenait d'un autre tableau, le Festin des dieux de Jeanne Armens van Bilgert, mettant en scène Dionysos et d'autres figures mythologiques. La présence de drag queen lors de cet événement a également été un point de friction. Pour certains critiques, cela représentait une poétisation excessive d'un événement sportif censé rassembler sans provoquer. Ces figures queer, déjà habituées à être des cibles dans des débats sociétaux, ont vu leur simple présence interprétée comme un geste militant, ce qui a amplifié les réactions négatives de la part de groupes conservateurs. Plusieurs figures politiques, notamment Marion Maréchal, ont dénoncé cette performance comme une atteinte aux traditions françaises et une propagande woke. Les réseaux sociaux se sont également enflammés, certains internautes y voyant un blasphème. À l'international, certains pays comme la Russie et le Maroc ont même décidé de censurer cette séquence, évoquant des raisons culturelles ou religieuses. Face à ces critiques, Piche et les autres artistes ont défendu leur prestation, affirmant qu'il s'agissait avant tout d'une célébration de la diversité et de l'inclusivité. Si Marion Maréchal s'indigne, c'est qu'on a fait quelque chose de juste, a ironisé Piche, soulignant que les réactions hostiles étaient révélatrices des biais envers la communauté queer. Le directeur artistique Thomas Joly a également expliqué que l'objectif n'était pas de provoquer, mais de célébrer les valeurs universelles d'ouverture et de fête associées à Dionysos. d'autres voix en France et à l'étranger ont salué l'audace artistique et le message inclusif de cette performance. Pour ses défenseurs, cette scène représentait une avancée dans la reconnaissance des minorités dans un événement suivi par des millions de personnes. Certains ont même estimé que cette séquence reflétait l'identité moderne et diversifiée de la France, renforçant son image sur la scène internationale. Pourquoi cette polémique ? Les Jeux Olympiques sont traditionnellement perçus comme un moment d'unité mondiale. Pour certains, la cérémonie d'ouverture doit rester neutre, évitant les messages perçus comme polarisants. Ici, la visibilité queer et les références culturelles ont été interprétées comme un dépassement des limites de cette neutralité. La polémique s'inscrit dans un contexte plus large de débat sur les questions de genre et d'identité. En France, les tensions autour des sujets LGBTQ+, ont souvent été exacerbées par des groupes conservateurs, qui dénoncent une propagande perçue comme imposée dans l'espace public. À l'international, ces questions sont encore plus sensibles dans des pays où les droits LGBT sont limités ou criminalisés. Cette controverse illustre les défis liés à la création artistique dans un événement aussi médiatisé que les JO. Si la cérémonie d'ouverture a clairement marqué les esprits, elle a également révélé des fractures culturelles et polémiques, tant en France qu'à l'international. Pour ses créateurs, elle restera une célébration audacieuse de la diversité. Pour ses détracteurs, elle symbolise un éloignement des traditions et une politisation inutile. En fin de compte, cette polémique soulève des questions fondamentales sur la manière dont les valeurs modernes, comme l'inclusivité et la diversité, peuvent coexister avec des sensibilités plus conservatrices dans des événements à portée mondiale.
Merci beaucoup Lola. Nous terminons cette émission avec le programme à l'aide de l'éducation sexuelle en France, présenté par Justine.
Bonjour à tous. Depuis 2001, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, aussi appelée EVARS, est obligatoire dans les établissements scolaires. Mais dans les faits, ce programme est très peu appliqué. Le mercredi 27 novembre 2024, l'ancien ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, a jugé ce programme en l'état pas acceptable, notamment à cause de la théorie du genre qui viserait à nier les différences sexuelles entre les filles et les garçons et qui donc ne comprend pas la différence essentielle entre le sexe biologique et le genre, une construction sociale, et donc l'importance que peut avoir l'environnement social et culturel dans la construction de l'identité sexuelle de chacun. Le lendemain, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a défendu l'idée d'un programme plus équilibré qui viserait à tenir compte de la maturité et de l'âge de l'enfant. Initialement prévu pour la rentrée 2024, ce programme de texte fait l'objet de débats depuis le mois de mars. Ainsi, il doit être présenté à la mi-décembre au Conseil supérieur de l'éducation, CSE. L'objectif principal est de rendre effectifs les 3 séances annuelles obligatoires prévues lors de la scolarité, mais aussi soutenir les professeurs et apporter des informations aux parents sur le programme. Ainsi, pour de nombreuses organisations, comme le planning familial ou la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles aux enfants, ce programme comporte un rôle fondamental dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en augmentation constante depuis ces dernières années. Ces organisations rappellent que 160 000 enfants en sont victimes chaque année en France. Le texte, qui n'est pas encore définitif, s'articule autour de 3 grands axes principaux. Le premier étant de se connaître soi-même, vivre et grandir avec son corps. Le deuxième étant de rencontrer les autres et construire avec eux des relations et s'y épanouir. Et le dernier visant à trouver sa place dans la société. Ces 3 axes correspondent aux 3 axes de la scolarité d'un enfant, la maternelle et l'élémentaire, le collège et pour finir le lycée. À l'école maternelle et élémentaire, le programme est centré sur la vie affective et relationnelle. En maternelle, il prévoit la prise en considération du corps, des sentiments, des émotions, du respect, de l'intimité, mais aussi de l'égalité fille-garçon. Dès son plus jeune âge, l'enfant doit connaître son corps, c'est-à-dire pouvoir nommer ses différentes parties, d'avoir conscience de son intimité, d'apprendre à accepter et refuser librement, ou encore d'être sensible à l'égalité entre les filles et les garçons concernant les activités ou les métiers connus à cet âge. Après 4 ans, le programme inclut le fait de pouvoir identifier des adultes de confiance et d'apprendre à les solliciter en cas de danger ou même dans le but de s'exprimer ou pour découvrir les différentes structures familiales, c'est-à-dire les familles hétéroparentales, monoparentales, homoparentales ou encore les parents séparés. En élémentaire, le programme vise à approfondir les connaissances scientifiques sur le corps et les émotions, avec notamment un vocabulaire adapté à l'âge des enfants. Il s'agit ici de comprendre ce qu'est l'intimité, de la protéger, d'avoir une bonne estime de soi et de connaître ses droits. Un peu plus tard, avant le collège, on apprendrait aux enfants à connaître les principaux changements du corps à la puberté, à repérer les situations de harcèlement mais aussi de discrimination. Le but est aussi de savoir repérer et de savoir se protéger des violences sexistes et sexuelles et à comprendre leurs droits. Au collège, le programme aimerait commencer à aborder le point de la sexualité, car des études démontrent que la plupart des collégiens ont accès trop facilement à la pornographie et sont confrontés à des images à caractère sexuel beaucoup trop jeunes. Il s'agit donc de savoir appréhender la notion de sexualité dans l'orientation sexuelle dès la sixième et dans le développement libre de la personnalité en cinquième. En quatrième, la sexualité est abordée de manière plus complexe, mêlant l'amour, la reproduction, le plaisir, mais aussi des termes liés à la santé, comme la prévention des risques contre les papillomavirus, les troubles du cycle menstruel, le dépistage de l'endométriose, etc. Le programme cherche aussi à évoquer l'incidence des réseaux sociaux sur les relations sociales et sexuelles de nos jours. En troisième, les élèves doivent s'interroger sur les liens entre le bonheur, les émotions et la sexualité, sur les situations problématiques et sur les violences sexuelles ou les discriminations. Au lycée, dernière étape de la scolarité et dernière phase d'adaptation avant la majorité, les lycéens rentrent ou découvrent l'envie des premières fois et sont déjà un peu renseignés sur la question de sexualité. Néanmoins, le programme vise à intervenir avec des temps de parole et des temps d'activité sur la sexualité pour les classes de seconde. En première, les élèves vont apprendre à développer leurs capacités, à gérer leurs impulsions et leurs émotions. Il est aussi primordial de leur apprendre à faire des choix responsables et à respecter l'autre. Enfin, pour les classes de terminale, le programme aurait pour objectif d'accompagner les futurs adultes dans leur appréhension à la sexualité. Cela comprend aussi la prise d'informations et de connaissances pour trouver des sources fiables en matière de santé sexuelle. Ce nouveau programme EVARS devrait commencer l'an prochain, en 2025. Toutefois, au lycée Jacques Prévert, dans le cadre du dispositif Balance ton égalité, toutes les classes de seconde reçoivent une journée comprenant différents ateliers liés à la sexualité où l'on évoque le consentement, les moyens de contraception ou encore les différentes parties de l'appareil reproducteur féminin et masculin. Cette année, les élèves de seconde auront rendez-vous le 6 mars pour participer à cette journée d'atelier avec leurs professeurs. Pour les classes de première, les élèves ont visionné un film le 25 novembre à l'occasion de la journée contre les violences sexistes et sexuelles nommée « Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique » de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. À leur tour, les classes de terminale assisteront à des ateliers le 25 février prochain. Ainsi, nous avons la grande chance d'avoir un lycée déjà avancé sur ce futur programme. En attendant, vous pouvez retrouver en libre disposition au CDI des prospectus sur la consultation gynécologique, les infections sexuellement transmissibles, sur les moyens de contraception, sur les premières fois et aussi sur des questions que se posent les adolescents. Je vous invite donc à venir vous renseigner au CDI si cela vous intéresse et n'hésitez pas à poser des questions à vos professeurs. Merci à tous.
Merci beaucoup Justine. Avant de conclure, j'aimerais donc inviter toutes les personnes ici présentes qui ont déjà participé à certains de ces ateliers en fonction de leur classe et à nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que ces ateliers vous leur ont apporté durant ces journées et qu'est-ce qu'ont été les inconvénients, les avantages et qu'est-ce que ça leur a surtout apporté.
Alors moi je voulais juste faire un point sur les cours d'éducation sexuelle. Alors je n'en ai pas eu dans cet établissement parce que je suis arrivée trop récemment, mais quand j'étais en seconde, je me souviendrai toujours de ce que ma professeure nous a dit après avoir passé seulement une heure à nous expliquer la fin de la sexualité chez l'homme et la femme. Elle nous a simplement dit « Et maintenant, c'est à vous de jouer, vous êtes dans le grand bain. » Et finalement, je me dis que quand on n'a fait que 4 heures d'éducation sexuelle en comptant en collège et lycée, bah, on sait vraiment rien. Et quand on tombe dedans, bah, on est assez perdu parce qu'au final, on n'est pas prévenu de quoi que ce soit la contraception, que ce soit les règles, les rapports sexuels en général, le partenaire en face ou la partenaire. Donc c'est vrai que le nouveau programme peut être assez pas mal. Et le fait qu'on ait un lycée qui donne des ateliers à tous hein, en général, hommes, femmes, seconde, première, terminale, bah, c'est vrai que c'est quand même un plus pour les élèves parce que on n'a pas tous les rapports sexuels à tous les âges, on n'a pas tous la puberté au même âge, etc. Et donc c'est vrai que c'est assez pas mal.
Vas-y Justine,
Personnellement, j'ai appris que très récemment, que en fait, dans tous les lycées de France, bah, on ne faisait pas justement ces ateliers en seconde liés à la sexualité. Et du coup, j'ai été un petit peu surprise justement en apprenant ça. Et je trouve que dans notre lycée, on a la très grande chance d'avoir des professeurs qui essayent de nous aider, de nous renseigner justement sur cette question qui n'est pas assez abordée dans l'éducation en général. J'invite les élèves à justement profiter de ces journées d'atelier ou encore des sorties qui sont mises à notre disposition pour justement se renseigner et ne pas hésiter à poser des questions parce que comme on le voit en fait on n'est pas assez renseigné sur cette question et pour moi c'est primordial de venir poser des questions pour éviter justement des problèmes dans notamment le consentement qui aujourd'hui n'est pas assez respecté. Donc j'invite les élèves qui m'écoutent à venir se renseigner, que ce soit au CDI ou même auprès de leurs professeurs.
Alors j'aimerais donc poursuivre notamment avec sur la chronique de Justine, revenir sur ta chronique. Dans ta chronique, tu parles du fait de commencer à aborder la notion des sentiments dès la maternelle et donc à la sexualité dès la fin du collège en CM2. Et du coup, j'aimerais vous demander, est-ce que pour vous, ça vous semble bien, pas bien en tant qu'élève? C'est quoi votre point de vue?
Est-ce que Justine, deux secondes, tu peux revenir sur la maternelle? En fait, qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit mis en place, si ça te dérange pas de revenir dessus?
Le programme, parce que moi du coup en soi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais en fait le programme il aimerait bien plus insister en maternelle sur le fait d'apprendre à connaître son corps et justement apprendre à comprendre aussi ses émotions et ses sentiments, parce qu'aujourd'hui en fait en maternelle on apprend énormément de choses aux élèves, mais je pense que la question du corps et des émotions elle est pas assez développé, et en fait ça crée directement un retard parce que l'enfant à cet âge, donc vers 3-5 ans, c'est le moment où il apprend le plus de choses dans la vie, et pour moi faudrait justement que ce point là soit plus poussé pour éviter des retards en fait après quand on rentre à l'élémentaire ou au collège.
Donc merci déjà d'être venu dessus. Mais du coup, moi, personnellement, je partage mon avis parce que personnellement, moi, ma mère, elle est maîtresse de maternelle et je vois à son quotidien que le problème, c'est... Je suis d'accord avec toi qu'en fait, il faudrait en plus en parler. Mais pour moi, c'est beaucoup aussi aux parents de faire cette éducation. Parce que moi, ma mère, y a énormément de notions à apprendre en maternelle et c'est pas forcément quelque chose... pour moi, c'est important que ce soit nos parents qui nous apprennent ça parce que c'est vraiment notre vie personnelle et c'est des choses qu'on doit pas, pour moi, même si vu que les parents ne font pas forcément, peut-être qu'il faudrait au bout d'un moment, peut-être qu'on en arrivera là, mais c'est pas forcément des choses qu'on devrait apprendre à l'école. C'est des choses qu'en fait tout le monde devrait maîtriser grâce à nos parents. Mais je suis d'accord sur le point où en fait y a beaucoup de parents qui malheureusement le font pas. Mais l'apprendre à l'école, sur niveau de l'âge, je pense que je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il c'est important de l'apprendre jeune. Mais je pense que c'est vraiment compliqué pour les maîtres ou maîtresses d'école. De traiter ce sujet en fait avec les enfants parce qu'ils sont encore tout petits. Et le problème, c'est que je sais personnellement que ma mère, elle a déjà eu des petits problèmes parce qu'en fait, on va dire quelque chose à l'enfant qui est normal, et en fait l'enfant il peut mal l'interpréter et après aller se plaindre à ses parents, et ça en fait ça peut avoir des conséquences hyper lourdes sur les maîtres d'école. Donc si on aborde la notion de l'intimité et du corps en maternelle avec ce que vont comprendre les élèves, en fait ça peut avoir des conséquences lourdes qui peuvent en fait faire... C'est peut-être un peu extrême, mais oui, faire perdre des travails à des gens, en fait.
Moi, je reviens juste sur ce que tu viens de dire au niveau du fait que ça devrait être les parents qui devraient notamment en parler. Je tiens quand même à préciser que le but de cette éducation, c'est notamment d'éviter l'inceste, donc les attouchements au sein même des familles. Donc, si les parents eux-mêmes enseignent l'éducation sexuelle à leurs enfants, ils pourraient peut-être un peu s'arranger avec la loi et du coup faire en comprendre à leurs enfants que des choses... qui, en tant parents, ils acceptent, qui ne sont pas du tout acceptables. Et du coup, le but de l'éducation à l'école est que tous les enfants aient la même base et les mêmes notions et qu'il n'y ait du coup pas de disparité entre chaque enfant.
Alors, moi, je voulais juste revenir sur le fait que je suis grande sœur de petite fille et le programme, sur certains points, enfin, pas me fait peur, mais je me dis que ça serait mieux, en fait, de l'élargir pas en bas âge, mais plutôt lorsqu'on arrive au collège ou au lycée. Parce qu'au final, On jette trop rapidement les jeunes élèves, voire simplement des élèves, dans le bain, en fait. On se dit qu'ils font leur première fois en moyenne entre 15 et 16 ans. Alors, à 15-16 ans, on arrête. Mais sauf que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut arrêter. C'est justement à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment continuer à les accompagner au maximum, qu'ils comprennent la notion du consentement, même s'ils la connaissent. Mais cette fois, qu'ils en prennent conscience pleinement parce qu'ils l'auront fait, ils auront compris ce que c'était. Ils prennent conscience qu'au final, je vais peut-être parler un peu trop cash, mais qu'ils comprennent qu'au final, avoir un rapport sexuel, c'est pas être dans des scènes pornographiques, c'est autre chose. Et je pense que c'est pas en maternelle qu'il faut comprendre la notion du consentement, des rapports sexuels, etc. Sachant que, comme l'a dit Alice, les enfants vont pas comprendre toujours ce qu'on va leur dire, ils vont interpréter eux-mêmes. Et donc, la notion des émotions, de l'accompagnement sur tout ça, je suis totalement d'accord, mais la sexualité, largement après. Enfin, personnellement, je vois ça plutôt après, quand ils commencent justement la puberté, qu'ils commencent à se poser des questions sur ce genre de choses, quoi.
Je suis d'accord complètement avec toi. Et pour revenir sur ce que Chloé avait dit, et en fait, je comprends largement son point de vue. Et du coup, pour moi, la meilleure solution, en fait, ce serait d'arriver à faire venir en fait des intervenants, parce que les intervenants, du coup, ce serait vraiment un point de vue extérieur qui pourrait enseigner donc à tout le monde pareil, puisqu'ils auraient reçu une formation spéciale. Parce que si on veut faire cet enseignement par des maîtres d'école, par exemple, il faudrait qu'ils suivent tous la même formation pour être sûr de bien partager des informations à tout le monde, les mêmes informations.
Moi, je reviens du coup sur un peu vos deux remarques. Alors, notamment sur toi, Amandine, tu disais que il faudrait que l'éducation sexuelle arrive plus tard parce que les enfants, du coup, pourraient mal interpréter, etc. Sauf que la réalité actuelle est telle que aujourd'hui, tous les enfants ont déjà vu des images à caractère pornographique, même sans forcément aller sur des sites pornographiques, parce que quand les parents regardent un film, parfois même dans les publicités, il y a ça, tu vois. C'est pas forcément de voir des personnes nues, hein, c'est vraiment, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut surtout s'adapter à la réalité, et que donc, oui, je suis d'accord que peut-être que 3 ans, c'est un peu jeune pour parler de sexualité. Après, il faut s'adapter à la réalité, et aujourd'hui, tout enfant de 12 ans a déjà vu des caractères pornographiques sans forcément être allé sur des sites pornographiques. Donc, il faut aussi se rendre compte de notre monde actuel et du fait que les enfants ont tous vu de la pornographie sans même le vouloir et sans s'en rendre compte.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
C'est ici que l'on va terminer notre magac sur Balance en égalité. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont bien voulu répondre et participer à ce débat.
Balance ton quoi ?
Balance ton égalité.
Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait,
c'est
non.
Avant de passer au magactu, nom présenté par Alice et Lola, je souhaite remercier chaleureusement tous les élèves qui ont participé, ainsi que la technique, avec Zoé, Ethan et Lohan, qui cherchent souvent à rester dans l'ombre, je tiens à le signaler.
Jacadie, c'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadie.org.